Signe des temps, Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Plus qu'ailleurs, peut-être, ce que l'on appelle l'héritage des philosophes des Lumières joue en France un rôle particulier. Qu'il s'agisse de la laïcité, de l'identité française ou même de la construction européenne, cet héritage est invoqué par tout le monde, pour s'en réclamer parfois, comme les manifestants du 11 janvier 2015, qui firent grimper en flèche les ventes de Voltaire et de son traité sur la tolérance, ou comme les partisans de l'Union européenne, qui voient dans le Parlement européen l'outil qui permettra un jour la résurrection de l'esprit de Goethe. Mais aussi et surtout pour l'attaquer. Il y a les tenants des études postcoloniales qui voient dans les Lumières le soft power du capitalisme et de l'impérialisme, les islamistes pour qui les Lumières sont l'acide destructeur de la foi, ou encore les anti-modernes comme Michel Houellebecq qui dans un entretien récent à la Revue des Deux Mondes voyait dans les Lumières une catastrophe civilisationnelle. Mais l'héritage des Lumières est aussi un livre sorti cet automne et signé Antoine Lilti, un livre exceptionnel par son ambition, par l'ampleur des questions qu'il pose et par le regard qu'il jette sur l'air du temps d'aujourd'hui, autant de choses qui font que nous lui consacrons cette émission tout entière. Antoine Lilti, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vos travaux portent sur l'histoire sociale et culturelle du XVIIIe siècle. Vous avez publié deux livres, dont Figure publique, l'invention de la célébrité, avant celui-ci, chez Fayard, qui recoupe un peu les problématiques de l'héritage des Lumières. Mais là, vous plongez vraiment au cœur du sujet, qui est vraiment les Lumières, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Vous commencez par les définir, les Lumières, et vous invoquez la figure de Voltaire, effectivement, qui joue un rôle d'icône un peu pour le public. Vous rappelez que ça a commencé très tôt. Dès 1791, les révolutionnaires ont fait transporter ses cendres au Panthéon. En 1878, pour la cérémonie de son centenaire, il y a eu tout un truc organisé par les républicains de l'époque. Et puis, il reste la référence des intellectuels engagés au XXe siècle. De Gaulle disait de Sartre, on n'enferme pas Voltaire. C'est la figure de Voltaire qui symbolise pour le grand public les Lumières, y compris dans ses ambiguïtés.
Oui, absolument. C'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant avec Voltaire, c'est que c'est à la fois une icône. Dans le livre, je parle du fait qu'effectivement, au moment des manifestations après les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercachère, il y avait des pancartes Voltaire et Charlie. Donc c'est une icône qui est très facilement mobilisable. Et en même temps, c'est une icône qui a toujours été contestée, puisque, alors, vous venez de rappeler effectivement la panthéonisation, la commémoration du centenaire, etc. Mais il y a toujours eu aussi une hostilité à Voltaire en tant que symbole des Lumières. Alors une hostilité qui était l'hostilité classique des adversaires, notamment catholiques, des Lumières. Et au XIXe siècle, on a oublié, mais il y avait une violence aussi anti-voltairienne. Et puis, ça s'est déplacé aujourd'hui par une critique qui serait plutôt une critique de gauche ou radicale, voire postcoloniale de Voltaire. Et là, Voltaire, c'est le mondain, c'est l'homme un peu léger, c'est le philosophe élitiste, voire le philosophe compromis dans la traite, un peu boursicoteur, etc. Donc on peut suivre dans ces critiques-là le regard.
C'est ça, il y a d'un côté le défenseur de la tolérance, le combattant contre la religion, et puis de l'autre, il y a l'admirateur de l'Angleterre commerciale et de tout ce qui l'accompagne. Vous citez un extrait du livre Remarques sur l'histoire, du texte de Voltaire, remarque sur l'histoire, qui est significatif de ça. Il dit « tout nous regarde », ce qui fait que c'est une phrase qui en soi préfigure le « nous sommes embarqués » de Sartre, en un sens, mais aussi « tout nous regarde, tout est fait pour nous ». L'argent sur lequel nous prenons nos repas, nos besoins, nos plaisirs nouveaux, tout est fait pour nous souvenir chaque jour que l'Amérique et les grandes Indes, et par conséquent toutes les parties du monde entier, sont réunies depuis 2 siècles et demi par l'industrie de nos pères. Nous ne pouvons faire un pas qui ne nous avertisse du changement qui s'est opéré depuis dans le monde. C'est-à-dire que c'est un constat de la mondialisation, en fait.
Oui, c'est un constat de la mondialisation. C'est au fond un diagnostic en fait de la modernité. Michel Foucault disait que les Lumières c'était le premier moment où les philosophes avaient fait un diagnostic de leur actualité. Là, on voit que on pourrait nuancer en fait ce point de vue, mais là on voit que c'est très clairement le cas. C'est-à-dire que c'est pas une pensée abstraite des droits ou de la tolérance ou de la raison. C'est aussi une pensée historique de ce qui est en train de se passer dans le monde, ou plus exactement ce qui est en train de se passer déjà depuis un siècle ou deux, et notamment autour de la mondialisation commerciale. Et ce qui est intéressant, c'est que Voltaire Voltaire va évoluer justement dans la nature du diagnostic, dans la valeur qu'il accorde à cette mondialisation commerciale.
Oui, parce qu'il commence par un grand optimiste, il a un vrai goût pour ça, il a un véritable intérêt pour les civilisations indiennes, chinoises, et puis peu à peu, il prend conscience de ce qu'il appelle le carnage de la conquête américaine, de l'esclavage qu'il dénonce. Peut-être pas avec les accents de Malcolm X, mais quand même. Et en lui, à travers cette tension chez lui, on voit apparaître l'ambivalence en fait des Lumières pour le mouvement même des Lumières. En fait, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une satisfaction, un optimisme et une inquiétude sur les apports réels du progrès et de la modernité chez tous les philosophes, pas seulement chez Voltaire.
Oui, exactement. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, en fait, c'est le double geste. De la modernité, c'est-à-dire que la modernité, elle est à la fois dans la satisfaction de la rupture avec la tradition, de la rupture avec tout ce qui venait avant, qui est rejeté du côté obscur, alors chez Voltaire, mais chez bien d'autres, hein, ce sont tous les siècles de barbarie du Moyen-Âge, donc il y a une sorte de d'autosatisfaction des modernes, ça c'est très présent dans les premiers textes de Voltaire, et puis en même temps, c'est toujours les Lumières ont toujours ce double geste, en même temps une autocritique du présent, de la modernité, qui va parfois prendre des accents extrêmement pessimistes, tragiques. Et ce qui est intéressant, c'est que si on suit comme ça la carrière de Voltaire, mais on pourrait le faire sur presque tous les grands philosophes des Lumières, on voit apparaître de manière de plus en plus vive cette angoisse par rapport justement, qui est pas du tout un optimisme du progrès, mais au contraire l'impression que la civilisation soit étalée trop loin, soit que effectivement une culpabilité. Donc le tout nous regarde. Au moment où Voltaire l'écrit dans les années 1740, c'est encore marqué par une satisfaction de moderne, et puis progressivement il prend un sens de responsabilité, voire de culpabilité très grande des Européens.
C'est-à-dire qu'on voit d'habitude les philosophes des Lumières comme un noyau d'intellectuels qui ont préparé la Révolution, mais en fait ce que vous montrez, vous, c'est que c'est plutôt un groupe d'écrivains qui est témoin d'une modernité qui va avec la nouvelle mondialisation d'époque, qui essaie de comprendre, d'analyser, de mettre en forme la crise qui est en train de naître, qui est la modernité en fait.
Exactement, c'est-à-dire que on a trop souvent, voilà, le problème des interprétations des Lumières, mais ça c'est très lié notamment en France à la Révolution française, qui a construit assez largement justement les Lumières comme déjà comme héritage. On a trop tendance à voir les Lumières comme une sorte de programme théorique dont la modernité serait sortie. Je pense que c'est le geste inverse qu'il faut faire. La modernité, elle a, enfin, disons, les transformations sociales, culturelles, politiques du XVIIIe siècle, elles ont plein d'autres raisons d'être. Elles ne sont pas sorties de la tête des philosophes. En revanche, eux ont été extrêmement sensibles à en décrire les mécanismes, mais en décrire aussi les ambivalences, les contradictions et les dangers. Et c'est ce qui explique d'ailleurs qu'il y a une telle diversité théorique parmi les philosophes des Lumières. Tous ceux, à chaque fois que les historiens de la philosophie ont essayé de construire les Lumières sur un plan doctrinal, ils n'y ont pas réussi, parce que, par exemple, Rousseau et Voltaire, mais aussi Diderot, etc., ont des positions très très différentes. Et on ne peut comprendre cette diversité que si on comprend qu'au fond, les Lumières, c'est l'espace de débat qui surgit avec la modernité, à la fois modernité commerciale, politique et sociale, pour en comprendre à la fois les potentialités, mais aussi les dangers.
Les dangers. Oui, vous dites que c'est le récit de la prise de conscience de l'Europe par elle-même, c'est le moment où l'Europe est le sujet de sa propre histoire. Et vous écrivez, et c'est intéressant quand on entend ce qu'on entend aujourd'hui sur les origines chrétiennes de l'Europe, vous écrivez cette idée de l'histoire européenne ne peut naître que sur les ruines de la chrétienté.
Ah ben oui, parce que la chrétienté, au fond, elle pense pas vraiment l'Europe. Elle pense pas l'Europe comme sujet de l'histoire. L'Europe avant le XVIIIe siècle, bien sûr, la notion existe, mais c'est une notion essentiellement géographique. C'est un continent. C'est à partir du moment où la chrétienté, d'une part, va être divisée par la réforme et surtout n'est plus l'outil théorique qui structure l'interprétation du monde, que un autre type d'histoire est possible. Et alors on le voit bien dans Ce qu'on oublie souvent, ce qu'on parlait de Voltaire, que Voltaire est aussi un grand historien. Il a beaucoup écrit d'histoire, et notamment donc son grand essai sur les mœurs et l'esprit des nations, qui est une histoire universelle, et qui se présente très clairement comme une rupture, une opposition à l'histoire universelle de Bossuet, qui était une histoire de la providence chrétienne. Et donc c'est à partir du moment où on rejette une interprétation de l'histoire fondée sur les textes sacrés et sur l'idée de providence, qu'on peut penser une histoire sécularisée qui pose du coup la question de la spécificité, mais aussi de la responsabilité de l'Europe comme sujet de son histoire.
Voilà, c'est une des tensions. Ça va être justement à la fois l'idéal universel des Lumières. C'est un mouvement qui est à la fois produit par son époque et par son lieu. C'est vraiment né de la modernité européenne. Et ça produit des valeurs avisées, en tout cas universelles. Et ça va être une des sources de tension pendant tout le long, enfin jusqu'à aujourd'hui, en fin de compte.
Oui, puisque elles sont, pour le dire simplement, les Lumières. Alors, on sent les universalistes continuent beaucoup à se réclamer des Lumières. En partie, ils ont raison, parce que les Lumières produisent, reposent sur l'idée que tout être humain a la même capacité à utiliser sa raison pour sa raison critique, pour argumenter et donc pour penser par lui-même. C'est au fond le principe. Quelle que soit sa classe sociale, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa religion. Donc ça, c'est le principe. Mais les philosophes des Lumières sont moins concernés par la question de la validité théorique de cet universalisme que par la question de son efficacité pratique. C'est-à-dire, comment est-ce que on convainc les gens d'abandonner leurs croyances, leurs préjugés, et là tout de suite cet universalisme est beaucoup moins évident et donc pose des questions. Est-ce qu'on impose la civilisation européenne par la force, par le modèle, par le commerce, et donc tout de suite l'universalisme devient beaucoup plus compliqué à partir du moment où il est mis à l'épreuve de sa réalité.
Culture, signe des temps, Marc Wetzmann.
On m'a vu dans le Vercors, sauter à l'élastique, voleuse d'enfants au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort, t'étais pas né. À la station balnéaire, tu t'es pas fait briller, j'étais gants de crin, geyser. Pour un peu, je trempais, histoire d'eau. La nuit, je mens, je prends les trains à travers la plaine. La nuit, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes la question où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton égo. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer, seulement t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus, des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseuse de loups, dynamiteuse d'aqueduc. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes la question où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton égo.
Alors Antoine Hilty, l'héritage des Lumières. Dès le début, dès la naissance des Lumières, il y a un mouvement d'opposition qui se crée. Vous pointez trois oppositions aux Lumières. Le premier naît et contemporain des Lumières, c'est le plus réactionnaire. Il se base sur la défense de la tradition, de l'identité et de la foi. Le maître à penser, le premier, c'est Joseph de Maistre. Et ses descendants aujourd'hui, qui sont Alexandre Douguine à Moscou, Michel Houellebecq, qui cite de Maistre dans l'entretien que je citais à la Revue des Deux Mondes, hein, parle de catastrophes civilisationnelles que furent la naissance gréco-latine et surtout le protestantisme qui, par leur action conjointe, devait nécessairement aboutir au siècle des Lumières et partant à l'effondrement de l'ensemble. Et puis Alain de Benoît, c'est intéressant parce que tous se disent aussi opposés à la colonisation. Il y a une deuxième tradition qui est la tradition néo-marxiste qui naît après la Seconde Guerre mondiale, qui critique les Lumières comme matrice de la raison instrumentale et donc du capitalisme, Adorno, Horkheimer, la dialectique de la raison, ça donnera la critique des formes de domination présentes chez Foucault. Et puis enfin, les théories postcoloniales qui sont en partie inspirées de la théorie néo-marxiste et dont les enjeux les plus intéressants, vous dites, portent moins sur l'universalisme en tant que tel que sur les conditions qui permettent de s'en réclamer. C'est-à-dire qu'une fois éliminées leurs outrances, ces théories postcoloniales fournissent des outils féconds pour mettre en évidence les tensions inhérentes à l'eurocentrisme des Lumières dans la lignée de Merleau-Ponty.
Oui, alors ce que je veux dire par là, c'est que, parce que ça a l'air comme ça un peu abscon, mais oui. Au fond... La critique postcoloniale des Lumières, elle a un versant qui est un versant radical, qui au fond repose un peu sur une caricature des Lumières et qui consiste à confondre justement les Lumières avec le langage de la domination européenne et occidentale. Et donc à rejeter les Lumières comme un faux universalisme. Alors... Évidemment, c'est assez facile, enfin, il me semble, de montrer que cette vision est un peu caricaturale et autodestructrice, parce que justement, on peut montrer assez facilement, ce que j'essaie de faire dans le livre, qu'il y a tout un courant des Lumières qui est anticolonialiste, anti-esclavagiste, oui, véritablement émancipateur. Ouais. Bon, donc on peut faire ça, et beaucoup de défenseurs des Lumières, du coup, balayent cette critique postcoloniale ou décoloniale. Et je pense que c'est un tort, parce que il y a un autre versant de cette critique qui est beaucoup moins radical et caricatural, qui justement lui permet d'être attentif justement aux ambivalences et aux contradictions des Lumières. Donc plutôt que d'être dans cet affrontement binaire entre des défenseurs de l'universalisme des Lumières qui veulent absolument pas entendre parler de la moindre critique ou remise en cause, et de l'autre côté des coloniaux farouches qui rejettent fondamentalement l'universalisme, je pense que ce qui est intéressant, c'est de montrer que les Lumières elles-mêmes, les penseurs du XVIIIe siècle, ont été conscients des difficultés et des limites de l'universalisme européen, ont cherché en général sans y parvenir à trouver des solutions, c'est-à-dire qu'ils ont produit eux-mêmes déjà une autocritique de leur eurocentrisme. Et une critique qui va en partie se refermer, je dirais, au début du XIXe siècle, et du coup qu'on a un peu oublié. Parce que au XIXe siècle, la puissance, pour le coup, du discours civilisateur et colonialiste va être trop importante. Et donc, oui, réouvrir ce moment de débat interne de la pensée européenne du XVIIIe siècle, ça me paraît aujourd'hui très utile, justement, pour que cet héritage des Lumières soit un héritage, disons, plus hospitalier, plus ouvert.
Oui, vous citez le mot d'ordre de l'historien indien Dipesh Chakrabarti qui dit qu'il faut provincialiser l'Europe et vous dites qu'il ne faut pas confondre les Lumières et l'historiographie eurocentrée des 19e et 20e siècles qui s'est voulu l'héritière des Lumières, mais elle n'était pas forcément, en tout cas pas directement, et qu'on peut à la fois provincialiser l'Europe et universaliser les Lumières.
Oui, et d'ailleurs, alors, Chakrabarti, c'est intéressant parce que je pense qu'il a été victime d'un trop bon titre. Le titre de son livre, donc « Provincialiser l'Europe », c'est devenu un slogan. Mais Chakrabarti est le premier à reconnaître, évidemment, qu'on ne peut pas penser en dehors, en réalité, de l'héritage des Lumières. Donc l'objectif de Chakrabarti n'est pas de rejeter l'héritage des Lumières. Il est d'essayer de penser comment, aujourd'hui, on peut le rendre compatible avec un monde qui est multipolaire et qui est fait de traditions très très diverses. Et au fond, c'est pour ça, alors vous citiez tout à l'heure l'évocation que je fais de Merleau-Ponty que je reprends d'ailleurs en fait au philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne a montré que chez Merleau-Ponty, il y a l'opposition, la distinction entre un universalisme de surplomb, hein, celui qui essaye d'imposer et d'affirmer des valeurs universelles avec ce qu'il appelle, ce que Merleau-Ponty déjà appelé un universalisme latéral, c'est-à-dire un universalisme qui passe par la prise en compte de la diversité des cultures, des sociétés, des expériences humaines. Hein. Suleiman Bachardian appelle maintenant un universalisme de la traduction.
Vous citez une phrase assez belle de Merleau-Ponty. Hein. Il parle de l'expérience ethnologique incessante qui est la mise à l'épreuve de soi par l'autre et de l'autre par soi.
Exactement. Or, cette phrase, alors, quand Merleau-Ponty l'écrit, lui, il a... C'est un texte sur Lévi-Strauss, hein. Donc c'est une discussion avec l'anthropologie de son époque, hein, donc des années 50. Mais cette mise en cause de soi par l'autre et de l'autre par soi, c'est un geste qui est extrêmement présent au XVIIIe siècle par justement toutes ces inventions de figures du tiers. Alors pensons par exemple évidemment à Montesquieu et aux persans de Montesquieu, mais ce sont aussi toutes les figures de sauvages par exemple qui viennent dans les textes des Lumières dire leurs quatre vérités aux Européens. Alors ce sont des textes de fiction ou pseudo-anthropologiques, mais qui évidemment viennent porter la contradiction à l'eurocentrisme, à l'intérieur même des textes des Lumières. Donc cette remise en cause permanente de soi par l'autre et de l'autre par soi, ce doute, cette autocritique permanente du geste de son propre universalisme est extrêmement présente au XVIIIe siècle. Et donc en retrouver les expressions, c'est aussi une manière de se réarmer intellectuellement aujourd'hui pour rendre cet héritage disons un peu moins simpliste que la façon dont il circule parfois.
Oui, mais pour ça, il faut éviter de considérer les Lumières comme un système de valeurs qui serait par nature universel, sans racines en quelque sorte. C'est un des paradoxes, c'est que vous citez l'historien allemand Sébastien Croade qui fait un peu ça apparemment, et en oubliant la spécificité européenne, paradoxalement on s'empêche de critiquer l'eurocentrisme, et que si les sources de la modernité peuvent être multiples, c'est bien en Europe qu'elles ont cristallisé de façon cohérente et produit un discours valorisant la rupture avec la tradition. Donc ce que vous prenez en fait, c'est l'étude de la manière dont les Lumières ont été reçues, intégrées, transformées dans les différentes cultures, à partir quelquefois de substrats locaux aussi.
Oui, absolument. Ce à quoi vous faites allusion, c'est effectivement une tentation d'historien ou d'historien des idées qui consiste à répondre à la critique faites aux Lumières qui seraient d'être trop européennes ou trop eurocentristes en disant mais en fait il y a des Lumières partout. Alors voilà, les Lumières, c'est pas spécifiquement européen. Et le problème, c'est qu'effectivement, si on fait ça, on aboutit à une définition extrêmement peu intéressante des Lumières et simpliste, une espèce de progressive, de bonne conscience, voire de réformisme modernisateur très flou. Et c'est justement en montrant y compris dans ces contradictions, le fait que les Lumières ont été une réaction à des transformations qui ont eu lieu en Europe dans des contextes politiques, sociaux, religieux, culturels bien particuliers, qu'on peut aussi comprendre la manière dont ils ont été appropriés ou d'ailleurs rejetés dans d'autres sociétés, mais aussi en Europe même, hein, dans d'autres milieux, dans d'autres pays. Oui. C'est-à-dire que il y a une puissance comme ça des Lumières d'interpellation, donc on peut comprendre l'effet que si on comprend vraiment son enracinement.
Alors, un exemple que vous citez, qui est fascinant, je trouve, c'est Toussaint Louverture, en Haïti, c'est-à-dire que on sait que le soulèvement des esclaves a commencé le 14 août 1791 par une cérémonie vaudou, mais qu'ensuite il y a eu une sorte de réécriture effectuée par un philosophe marxiste né à Trinité et Tobago qui s'appelait Cyril James et qui a fait de Toussaint Louverture non pas le chef d'une révolte vaudou, mais un homme inspiré par les écrits de l'abbé Raynal et en particulier par l'histoire philosophique, c'est-à-dire un disciple des Lumières.
Oui, alors c'est
la dynamique est complexe.
C'est compliqué parce que Toussaint Louverture lui-même est effectivement, c'est pas lui la révolte de Bois Caïman, la révolte vaudou, c'est encore autre chose. Lui est va servir au sein de d'abord de l'armée française, puis au service des Espagnols, puis va revenir, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est un personnage très très complexe et très intéressant. La question du lien de la révolte des esclaves d'Haïti, de la révolution haïtienne à la philosophie des Lumières, elle est fondamentalement ambivalente et complexe. Et c'est intéressant de voir que effectivement James, qui lui-même donc est un historien, un penseur et un historien qui écrit donc ce grand livre sur les Jacobins noirs, va essayer de renforcer encore cette idée d'un Toussaint Louverture, lecteur de la Bérénale, héritier des Lumières, alors que d'autres lectures en sont possibles. Et donc là encore, c'est cette nécessité de se situer dans l'héritage l'héritage des Lumières pour penser un universalisme de l'émancipation.
De l'émancipation. Alors cet universalisme, une des conséquences de cet universalisme, c'est que en retour l'Europe, puisque l'Europe se définit par les Lumières, par sa modernité et par sa visée universelle, mais en retour l'Europe cesse d'être un simple espace géographique ou une entité religieuse pour devenir une narration en fait. Et donc un processus historique spécifique, une narration, et donc ces frontières deviennent mouvantes. On le voit notamment dans les relations avec la Russie. À partir de quand est-ce que la Russie devient européenne? Quand est-ce qu'elle l'est? Quand est-ce qu'elle cesse de l'être? Et on pourrait décliner ça avec d'autres pays.
Oui, c'est-à-dire que l'Europe va se penser comme le théâtre, mais surtout le résultat d'une histoire, puisque
c'est-à-dire une civilisation.
Et donc une civilisation. C'est pour ça que la citation que vous évoquiez tout à l'heure de Michel Houellebecq sur les Lumières comme catastrophe civilisationnelle, elle est d'une certaine manière ironique, parce que la notion même de civilisation, c'est une notion
un produit des
Lumières et du XVIIIe siècle. Et donc les Lumières se sont pensées comme le résultat par excellence d'un processus de civilisation, c'est-à-dire l'émergence d'un système d'État concurrent fondé sur les ruines des empires. Grâce au fond à deux phénomènes qui sont d'une part le développement du commerce et d'autre part l'existence de cours dans lesquels prennent place les arts, la littérature et donc la culture. Donc économie et culture au fond les deux pour les historiens du XVIIIe siècle, les philosophes du XVIIIe siècle, les deux piliers de la civilisation européenne. Donc du coup effectivement ça amène à penser à discuter inlassablement sur la question de la civilisation de la Russie. Peut-on civiliser cet immense empire russe? Et comment? Est-ce que c'est par la force, Pierre le Grand, en imposant les modèles européens? Est-ce que c'est par l'imitation et le modèle spontané de l'Europe? Voilà. Et du coup, la question va se poser de la même manière dans les colonies. Hein, comment est-ce qu'on exporte la civilisation européenne?
I saw some people starving. There was murder, there was rape. Their villages were burning. They were trying to escape. I couldn't meet their glances. I was staring at my shoes. It was acid, it was tragic. It was almost like the blues. It was almost like the blues.
France Culture, Signe des temps, Marc Wetzmann.
Alors, une des spécificités des Lumières, c'est l'autre nom des Lumières, vous venez de le dire, c'est le commerce en fait. Les Lumières sont indissociables du développement du commerce mondial. Et là, on rentre dans le grand problème du rapport des Lumières au capitalisme. Alors, vous évoquez la thèse de Habermas, dans laquelle les Lumières seraient le produit de l'émergence d'un espace public bourgeois, une sphère publique qui se serait constituée en dehors de l'État, contre l'État, à travers les débats, la sociabilité, la réciprocité dans les cafés, dans les loges, dans les journaux. Et en fait, vous critiquez cette vision des choses, vous n'êtes pas le seul, mais ce que vous en dites est à mon avis assez neuf. Vous expliquez qu'il y a la vraie nouveauté de ces années-là, à partir des années 1770, et ce que Habermas ne voit pas, c'est la création du public. Un public qui n'est pas celui, qui est extérieur au cercle des gens qui se parlent, justement.
Oui, c'est-à-dire qu'Habermas, il a une définition de l'espace public et une définition fondée sur l'échange d'arguments, le dialogue dans des espaces de sociabilité. Or, ce qui est la grande nouveauté, c'est effectivement c'est le public au sens du public des publics médiatiques. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui n'a pas été suffisamment décrit par les historiens. C'est que je pense qu'il y a une véritable révolution médiatique au XVIIIe siècle, avec l'explosion des journaux, par exemple. Alors, en Angleterre, il y a des dizaines de journaux et de quotidiens, mais en France aussi. Alors, pendant la Révolution, ça va être vraiment une explosion, mais déjà avant, l'imprimé, un public de lecteurs. Alors, au début, c'est le public des théâtres, mais avec les théâtres privés, commerciaux, on a vraiment une transformation des espaces urbains, ce qui fait que dans les métropoles, on a vraiment un public de spectateurs, de lecteurs, de curieux, de lecteurs de journaux. Et donc ce qui se transforme au fond, c'est l'attention, les formes d'attention et la manière de capter l'attention du public.
C'est l'époque où les correspondances privées se retrouvent imprimées sans que nécessairement les auteurs des correspondances en soient avertis ou ne le veuillent. Il y a toute une publicité de l'intime qui se met en place à ce moment-là. Vous montrez bien la différence entre le débat public, le débat de la sphère publique tel que le voit Habermas, c'est-à-dire par exemple les débats au sein des élites éclairées sur la libéralisation du commerce des grains, par exemple, et un autre débat qu'Habermas ne voit pas, qui est la circulation des rumeurs dans le public, non formé, autour d'un complot qui viserait à affamer le peuple, autour de cette circulation des biens. Et la même chose va se passer avec Marie-Antoinette, par exemple. La vie privée de Marie-Antoinette, qui est exploitée, qui est mise sur la place publique à travers des rumeurs, à travers des choses comme ça.
Oui, alors du coup, les philosophes des Lumières, les écrivains des Lumières, ils ont dans un rapport extrêmement ambivalent par rapport à cette nouvelle figure du public. Parce que, d'une part, le public, c'est leur objectif. C'est-à-dire que, parce qu'ils ont une conception justement de l'émancipation par le savoir, le principe des Lumières, c'est qu'elles doivent se propager, elles doivent se diffuser. Et donc, elles doivent se diffuser auprès d'un public. C'est pour ça que la notion même de publicité, au sens de rendre public le savoir, la connaissance, par l'écriture, par l'éducation, est fondamentalement positif. Et donc ça, c'est effectivement ce qui a été traditionnellement retenu par l'historiographie. Mais ce qu'on a moins vu, c'est qu'en parallèle, il y a une angoisse très forte par rapport à cette nouvelle figure du public, qui est perçue comme une figure presque menaçante. Alors, par exemple, si on prend l'article « Multitude » dans l'encyclopédie, on s'aperçoit que là, il y a une inquiétude très grande lié au fait que la sociologie du public, ce public réel de lecteurs, de colporteurs de rumeurs, etc., ne fonctionne pas du tout sur le modèle du public idéal, du lecteur rationnel, habermasien, parce que ce sont aussi des gens qui sont plus intéressés par la vie privée des gens célèbres, par les faits divers, par ce que leur racontent aussi les charlatans, et donc les philosophes angoissés en s'apercevant que le développement du public finalement favorise peut-être davantage les charlatans intellectuels que les véritables philosophes. Et ça, c'est évidemment très intéressant parce que cette ambivalence vis-à-vis du public dont ils ne peuvent pas se passer et qui en même temps apparaît comme une figure assez inquiétante, eh bien cette ambivalence, elle va pas quitter les intellectuels depuis les Lumières. Et en relisant les textes sous cet angle, on est quand même très très frappé par des effets d'écho
avec aujourd'hui.
Je crois pas tirer très fortement.
Alors, c'est... on n'est pas encore à l'époque des réseaux sociaux, mais on est déjà 70 ans, 50, un demi-siècle avant l'homme des foules de Baudelaire.
Oui, alors, le parallèle avec Baudelaire est intéressant, parce que c'est celui, effectivement, qu'avait fait Foucault. C'est peut-être le pousser un peu loin, parce que chez les auteurs des Lumières, il est rare qu'on trouve, disons, la forme de cynisme, dandy chez Baudelaire. Mais il y a effectivement dans certains textes, notamment par exemple chez Diderot à la fin de sa vie, chez Rousseau lorsqu'il devient complètement paranoïaque dans les dernières années, ou même chez Voltaire, on trouve des textes qui vont vraiment dans ce sens, l'idée que la multitude est forcément du côté de la méchanceté, du côté de la bêtise. Et alors évidemment, sauf que le poète peut construire une figure très positive de solitaire, méprisant la foule. Le philosophe des Lumières, dont l'objectif c'est d'éclairer le peuple, peut beaucoup plus difficilement construire figure positive.
C'est la contradiction de Rousseau avec l'authenticité du moi qui va chercher c'est en réaction à ça que Rousseau va chercher le moi, la solitude et tout ça. Et vous dites aussi que c'est en réaction à ce mouvement que se crée par exemple la franc-maçonnerie, dans le désir de préserver une sorte de secret, ou en tout cas de secret des débats, et qui va être interprété par contre par les anti-modernes et par une partie de la foule en question comme le résultat d'un complot. Les francs-maçons vont devenir l'exemple même du complot destructeur de l'Ancien Régime.
Oui, alors cette interprétation-là de la franc-maçonnerie comme complot, elle est un tout petit peu plus tardive, puisqu'elle apparaît avec la Révolution française. Donc en 1797-98, avec les grands textes, les premiers grands textes contre-révolutionnaires qui vont effectivement dénoncer le complot maçonnique, mais sous une forme adoucie, aseptisée. On la retrouve dans toute une partie de l'historiographie qui a voulu, donner une charge idéologique à la franc-maçonnerie. Alors je pense qu'il faut en avoir plutôt une lecture sociologique, qui est là une réaction face aux effets de la publicité, et donc l'importance de la construction d'un entre-soi à la fois social et intellectuel.
Alors, un des aspects les plus originaux de votre livre, les plus novateurs à mon avis, c'est ce que vous dites, c'est une des autres conséquences de ce développement du public et de cette publicité de l'intime, c'est la question du crédit, et pas seulement comme instrument financier, mais crédit au sens de réputation, crédit au sens de on fait crédit à quelqu'un, c'est qu'on lui fait confiance. Et ce double sens du mot crédit, vous lui consacrez un chapitre entier qui est absolument fascinant. Vous dites que le crédit est à la fois une ressource qui repose sur la confiance qu'inspire un individu et une capacité d'action, parce qu'on a de l'argent, on nous prête de l'argent, donc une puissance, et ça entraîne... Cette double sens du crédit va entraîner le développement de la culture mondaine, de la culture de cour, culture des apparences, où les marchands de mode vont jouer un grand rôle, et donc la création de la mode.
Oui, alors il faut rendre hommage ici, je vais rendre hommage à une historienne américaine qui s'appelle Clark Ruston, qui a écrit un très beau livre justement sur cette notion de crédit, qui malheureusement n'a pas été traduit encore en français, et donc Le chapitre, je m'appuie beaucoup sur elle. Je pars d'une lecture de son livre pour essayer de développer ce thème. Donc, je suis content de la citer. Mais l'idée, c'est effectivement, elle a très bien montré que le crédit a vraiment au XVIIIe siècle ce double sens que vous venez de rappeler. À la fois une capacité d'agir fondée sur la maîtrise de réseaux sociaux et d'une réputation, et puis la dimension économique. Alors, évidemment, c'est un des éléments de la modernité, ça c'est le fil que moi j'essaye de tirer, qui est le développement de la mode, qui est justement lié à cet effet, à une transformation de la temporalité et des mécanismes d'imitation sociale liés justement aussi à la modernité commerciale et à la publicité, au phénomène du public. Pour qu'il y ait mode, il faut qu'il y ait de nouvelles forme de distinction où on n'est plus, la distinction n'est plus, y compris vestimentaire, mais plus généralement sociale, la réputation n'est plus liée comme dans les sociétés traditionnelles au fait de reproduire des formes prestigieuses traditionnelles, mais de se conformer à la nouveauté, voire d'être très légèrement en avance. Et donc, ces phénomènes, évidemment, là aussi, nous, on connaît très bien de mimétisme consumériste, commencent à se déployer à la fin du XVIIIe siècle. On en a plein d'exemples. Il y a vraiment une économie, une consommation de la mode. Et ça transforme à la fois la nature même des relations sociales et du prestige social et aussi la manière dont une société pense sa propre temporalité, et donc les temporalités du changement.
Et vous, alors, ce que vous expliquez très bien, c'est comment on passe de l'ancien régime au 19e siècle, la différence entre une société aristocrate où le crédit social d'une personne repose sur sa position dans une pyramide de faveurs et la société mondaine où le crédit repose sur la capacité à construire une réputation. Et c'est évidemment, on passe de Marie-Antoinette et des relations de Marie-Antoinette à sa couturière que vous décrivez à Madame Bovary, en fait.
Oui, c'est vrai. C'est fascinant les relations de Marie-Antoinette avec Rose Bertin, parce que on est toujours, bon, il y a cette Marie-Antoinette mania dont on peut se lasser, mais ce qui est frappant, c'est si on prend Rose Bertin, c'est l'apparition de la modiste, hein, de la marchande de mode, mais qui est aussi une créatrice en réalité, une créatrice de vêtements, comme figure presque sur un plan d'égalité, c'est beaucoup dire, mais qui devient une figure célèbre, prestigieuse, et qui elle-même va jouer de la réputation, donc du crédit de la reine, pour construire sa propre réputation. Donc là, on voit aussi la mode est aussi un outil qui permet des formes de mobilité sociale et dans l'échelle du prestige, qui était évidemment absolument impensable dans les sociétés traditionnelles.
Alors, on ne peut pas parler de tout, hein, on va finir cette émission, mais pour conclure, ce qui est intéressant dans la manière dont vous articulez les différents pans du livre, c'est que vous essayez d'établir des liens entre réputation, confiance et crédit, voir comment ils fonctionnent jusqu'au cœur des mécanismes économiques contemporains, voir comment ces mécanismes économiques, sous leur rationalité apparente, sont sous-tendus par des systèmes de croyances, voire des systèmes esthétiques. Et en fait, ce que vous essayez de suggérer, c'est comment appréhender le monde contemporain, comment utiliser l'héritage des Lumières pour penser le monde contemporain à travers ce qui s'est joué à la naissance de la modernité, au tournant entre la fin du XVIIIe siècle et le XIXe siècle.
Oui, alors c'est très bien, c'est très très bien résumé.
C'est de faire de la synthèse parce qu'on arrive à la fin de l'émission.
Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que je crois que je donnais comme titre à la conclusion problématiser la modernité. C'est-à-dire que je pense que c'est ça qui est intéressant avec les Lumières, c'est pas d'y chercher la réaffirmation de nos valeurs, de nos croyances, etc. C'est plutôt de montrer que toute une série de phénomènes dans lesquels nous vivons, mais dans lesquels nous sommes d'une certaine manière totalement engluées, ont été décrites et critiquées, mais critiquées au bon sens du terme, hein, pas dénoncées, vraiment critiquées, au moment même de leur surgissement. Et donc, ce point de vue-là, en réétudiant la façon dont les hommes des Lumières, les femmes des Lumières ont décrit ces phénomènes, on se donne la possibilité de les penser un peu différemment.
Voilà, voir d'où nous venons pour savoir où nous allons.
Let's take our sweet time. Let's take our sweet time. My back is yours. Bear me out. Take me in. Bust my chin. Shoot our stream. Spun to catch the sight of you. Snake honey from your tongue. Make me strong. Make me strong. Resist me, make me strong.
C'était Signe des Temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Céline Leclerc, avec à la technique Adèle Caglar et à la réalisation Véronique Villa. Dans un instant, une histoire particulière.
Feed me, make me strong. Snake honey from your tongue. Spun to catch the sight of you. Snake honey from your tongue. Oh, feed me, make me strong.
tout m'a coup. Chase me down and steal my gold. Steal my gold.